Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Je déteste nettoyer les vitres et les miroirs. Plus j'essaie de les rendre propres et plus ça rate. Et pour peu qu'on brise un miroir au passage, alors là, on aura vraiment de la chaîne après-midi. Personnellement, je n'ai jamais cru à cette superstition qui dit que briser un miroir déclenche 7 ans de malheur. Ah, si seulement j'y croyais, j'aurais enfin une bonne raison pour ne plus nettoyer mes vitres. C'est surprenant de voir qu'il n'y a aucune mention de cette superstition à travers les contes. Alors que cette superstition existait déjà chez les Grecs. Les Grecs pensaient que le miroir était le reflet de l'âme, donc s'il se brisait, la personne était maudite car son âme était abîmée. D'ailleurs, dans le conte de Blanche-Neige, on ne sait pas qui nettoie les vitres et les miroirs dans le palais. Est-ce la méchante belle-mère qui nettoie son propre miroir magique ou pas? Les frères Grimm, lorsqu'ils ont fait paraître cette histoire en 1812, ont omis de nous préciser ce détail. Et quand on regarde notre visage dans un miroir, la plupart du temps, notre regard se focalise immédiatement sur un détail. Si vous avez un bouton sur le nez ou un épi dans les cheveux, non seulement vous ne verrez que ça, mais en plus vous serez persuadé que tout au long de la journée, tous les gens que vous croiserez ne verront que ça. On utilise le miroir pour vérifier notre apparence, pour voir si notre reflet est conforme à l'image qu'on s'en fait, pour voir si on ressemble à la personne qu'on voudrait être. On se regarde dans le miroir pour chercher quelque chose ou pour vérifier quelque chose. Alors que dans les contes, les personnages confrontés à un miroir n'en font pas du tout le même usage. Le miroir a une valeur symbolique et ne s'arrête pas au souci du détail. Prenons l'exemple du célèbre miroir de la belle-mère dans Blanche-Neige. C'était au milieu de l'hiver. Et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle et 3 gouttes de sang en tombèrent. Et voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit « Ah, si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène !» Et bientôt, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l'ébène. Ce qu'on fit qu'on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l'enfant eut vu le jour, la reine mourut. Un an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir souffrir qu'aucune autre la surpassât en beauté. Elle avait un miroir merveilleux. Et quand elle se mettait devant lui pour s'y mirer, elle disait « petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Alors elle était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle. Et quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Comme celle-ci demandait une fois à son miroir « petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il lui répondit aussitôt « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Je vous rassure, vous n'êtes pas fou. Si le miroir parle, c'est parce qu'il est annoncé d'emblée comme merveilleux. Vous n'en trouverez pas un comme ça chez Ikea, même si vous arrivez à trouver un vendeur disponible. Petite pause musicale en compagnie de Apara et du morceau Voido. Revenons à nos moutons, à nos miroirs plutôt. Dans l'histoire de Blanche-Neige, le miroir reflète surtout la vanité de la belle-mère, en plus de sa beauté. On nous dit bien qu'elle est belle et hautaine à ne pouvoir souffrir qu'aucune autre la surpassant en beauté. Et tant qu'elle est la plus belle de tout le pays, tout va bien. Mais le miroir révèle aussi la jalousie de la belle-mère. Tout bascule le jour où le miroir lui révèle qu'elle est la plus belle ici, mais que Blanche-Neige est 1000 fois plus belle qu'elle. Être la plus belle du pays ne suffit pas à la belle-mère. Elle ne veut pas de concurrence et ne supporte pas d'être surpassée en beauté. Dans la suite du conte, on apprend que cette nouvelle la consterne et qu'elle devient, je cite, « livide de rage et d'envie ». D'ailleurs, on peut même se demander si le fait d'être surpassée en beauté par une fille plus jeune qu'elle ne rajoute pas une couche à son malheur. Dans ce cas-là, le miroir devient aussi révélateur du temps qui passe, de notre impuissance face à cela, de notre jeunesse qui glisse entre nos doigts sans qu'on puisse en faire une captive. Et la reine, ne pouvant absolument rien faire contre ça, se venge de son impuissance en se retournant contre Blanche-Neige. Petite parenthèse. Notons que c'est à l'âge de 7 ans, comme nous dit le conte, que Blanche-Neige est devenue, je cite, « aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même ». 7 ans. Le chiffre 7, encore une fois. Tout comme les 7 années de malheur qui s'abattront sur celui ou celle qui brisera un miroir. Décidément, ce chiffre n'est pas anodin. D'ailleurs, il trouve un écho dans toutes les religions. Dans la religion catholique, par exemple, il y a les 7 péchés capitaux, dont l'envie et la colère font partie. Et à partir du moment où le miroir révèle à la belle-mère que Blanche-Neige la surpasse en beauté, la belle-mère est rongée par l'envie et la colère, justement. Et la jalousie de la belle-mère s'envenime. Le texte nous dit que l'envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n'eut plus de repos, ni jour, ni nuit. La jalousie se transforme en haine, comme le dit le conte. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur tant la petite fille lui inspirait de haine. Et cette haine mènera à un élan meurtrier, et je vous cite le texte. Elle fit venir son chasseur et lui dit « Portez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir devant les yeux. Là, vous la tuerez et vous m'apporterez son foie et ses poumons comme preuve de l'exécution de mes ordres. » Et c'est tout juste si elle ne lui donne pas la recette de la tourte aux rognons dans la foulée. Et tout cela a été révélé, déclenché par le miroir qui a fait ressortir le côté obscur de la belle-mère. Moi, dans ce conte, j'aime bien le miroir, cet objet un peu humanisé qui a le don de parole, parce qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le jour où il révèle à la belle-mère que Blanche-Neige est à présent plus belle qu'elle, il n'y va pas par quatre chemins. Il lui dit « Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous ». Elle n'y met pas la forme. Il n'essaie pas de ménager la belle-mère. Du coup, faut pas s'étonner si elle pète un plomb. Et puis, le miroir soulève tout de même un détail surprenant dans ce conte. Car on apprend, grâce à lui, que la beauté est un concept objectif. Lorsque la belle-mère demande pour la première fois quelle est la plus belle de tout le pays et que le miroir répond « Madame la reine, vous êtes la plus belle », le texte nous dit « Alors elle était contente car elle savait que le miroir disait la vérité ». Comment ça le miroir dit la vérité ? Mais la beauté c'est subjectif ! Un miroir ne peut pas détenir ce genre de vérité, car la beauté n'est pas une vérité. C'est un concept qui dépend des goûts, des cultures, des époques. Et puis ce n'est pas comme si le miroir avait des points de comparaison. La seule personne qui se plante devant lui, c'est la belle-mère. Donc, lorsque le conte nous dit que la belle-mère se réjouit de la réponse donnée par le miroir, elle est satisfaite, car elle a obtenu ce qu'elle était venue chercher. Une confirmation de ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire être la plus belle, et cela montre d'emblée ce à quoi elle attache le plus d'importance. C'est marrant de voir comme un miroir, qui ne fait pourtant que refléter l'extérieur, en dit long sur l'intérieur. Et puis parfois, il n'y a même pas besoin d'un miroir. Seul son reflet dans l'eau suffit. Voici un petit conte qui s'intitule « Un lion furieux ». Un lion cruel régnait dans une forêt et mangeait chaque jour l'un de ses sujets. Le tour du renard arriva. Il ne se dépêcha pas trop, tourna, tourna et retourna, avant de se décider enfin à se présenter au festin. Il dit au lion « Majesté, veuillez me pardonner mon incivilité, car si j'ai pris tant de retard à venir à ce rendez-vous, c'est à cause d'un autre lion tout à fait fou qui prétendait me dévorer à votre place. » Le lion s'écria « Où est-il ? » Le renard lui dit « Pas très loin, il s'est caché dans votre puits. » Le lion se jeta sur le puits et regarda au fond. Il y vit alors son image. C'était un lion orgueilleux. Il s'écria « Va-t'en d'ici !» Et l'écho répondit « Toi aussi !» Le lion, en rage, se jeta sur son image et se noya. Ici, le reflet révèle au lion son côté sombre, tout comme le miroir avec la belle-mère dans le conte de Blanche-Neige. Dans le puits, le lion croit y voir un autre que lui, tant il ne se reconnaît pas. Oui, parfois on apparaît de manière tellement différente par rapport à ce que l'on pense être que l'on ne se reconnaît pas. L'écart est trop grand entre ce que l'on pense et ce que l'on voit. Le lion se pense fort et maître de la situation parce que tous les animaux sont à sa merci et viennent docilement se faire bouffer, mais le seul qu'il ne parvient pas à dominer, c'est lui. Et le fait de ne pas avoir de contrôle sur lui-même le rend fou de rage. Au lieu de changer, de faire des efforts pour ne plus être ce lion sanguinaire, il cherche à faire disparaître le problème en se jetant sur son image, comme nous dit le conte. L'orgueil du lion révèle aussi sa lâcheté. Le lion essaie de résoudre le problème en le faisant disparaître et il finit par être puni en payant de sa vie. C'est vrai que le conte ici est très moralisateur. Ce qu'on en retire, c'est qu'à tout vouloir, on finit par ne plus rien avoir du tout. D'ailleurs, la logique est la même chez le lion et la belle-mère de Blanche-Neige. Il s'agit de faire disparaître son ennemi pour retrouver sa place au sommet. Et c'est par le biais du reflet, qu'il soit dû au miroir ou à la surface de l'eau, que cette soif de domination est révélée. Petite pause musicale en compagnie de Superpose et du morceau Opening. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8, vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Thank you. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire à présent un conte qui s'intitule Le Miroir. Premièrement, parce qu'avec un titre comme ça, il est forcément dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et ensuite, parce qu'il est vraiment plein de justesse. Il avait essuyé un terrible orage, alors qu'il traversait une forêt. Pris au dépourvu, il avait cherché un abri et avait trouvé une misérable cabane habitée par un couple de vieilles gens. Il avait été accueilli comme un prince. Malgré leur pauvreté, les deux vieux lui avaient donné de quoi se changer, se chauffer, se nourrir, lui avaient donné un lit pour dormir, sans rien lui demander en échange. Aussi, le lendemain, était-il parti en les remerciant du mieux qu'il pouvait, mais en se promettant de revenir leur apporter un cadeau. Il avait remarqué qu'il n'y avait aucun miroir dans la maison. Il en acheta un dans la ville voisine et retourna le leur donner. Quand il arriva, la petite vieille était partie et il donna donc le cadeau au vieux. Celui-ci s'en alla ouvrir son cadeau. Il n'avait jamais vu de miroir de sa vie. Et, le regardant, il pensa voir là le portrait de son vieux père. Et il en fut tout réjoui, réjoui à en pleurer de bonheur. Croyant que ce portrait ne pourrait intéresser personne d'autre que lui, il s'en alla le cacher dans le grenier sans rien dire à sa femme. Et chaque fois qu'il pensait à son père, il s'en allait dans le grenier contempler ce qu'il croyait en être le portrait. Sa femme fut intriguée par ce manège. Un jour qu'il était parti, elle s'en alla, à son tour, dans le grenier, voir ce qu'il pouvait bien y cacher. Et elle découvrit le miroir. Elle n'en avait jamais vu non plus. Elle crut y voir tout autre chose que ce que croyait y voir son époux. « Je savais bien qu'il me trompait !» s'écria-t-elle. « Mais cela m'est bien égal parce qu'elle est laide et encore plus vieille que moi !» Et puis elle n'en parla plus. Mais les relations des deux vieux se dégradèrent. Elles se dégradèrent à tel point qu'un garde champêtre, qui était de leurs amis, et qui, lui non plus, n'avait jamais vu de miroir, s'en inquiéta, et, les réunissant, leur demanda ce qui se passait. Les deux vieux lui montrèrent l'objet qui était à l'origine de leur discorde. Et le garde champêtre, regardant le miroir dans lequel se reflétait son image, ne put que constater qu'il n'y comprenait rien, lui non plus, car ce qu'il voyait, lui, c'était un garde champêtre. Trois personnages pour un miroir. Et là encore, chacun veut bien y voir ce qu'il veut. Le petit vieux y voit son père. Et oui, avec le temps, et sans le savoir, il est devenu le portrait de son père. Cela l'émeut, et le texte nous dit « il en fut tout réjoui, réjoui à en pleurer de bonheur ». Le petit vieux pense voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui lui évoque un passé heureux, dissipant le brouillard du présent et l'incertitude de l'avenir. Autant dans le conte de Blanche-Neige, le temps qui passe ne console pas la belle-mère, bien au contraire, autant ici, ce souvenir qui ressurgit console et remplit de joie. Une chose est surprenante dans ce conte. Le petit vieux ne pense pas pouvoir partager son bonheur. Pensant que le portrait de son père n'évoquerait rien à sa femme, que ce portrait n'aurait sur personne d'autre cet effet apaisant, et je vais reprendre le texte, croyant que ce portrait ne pourrait intéresser personne d'autre que lui, il s'en alla le cacher dans le grenier sans rien dire à sa femme. Il le cache, on dirait un trésor, et le fait de le cacher donne encore plus de valeur à ce miroir pris pour un portrait. On dirait qu'il va le cacher sans le montrer à sa femme, car si celle-ci voyait le portrait du père, elle ne serait sans doute pas autant touchée que son mari, et ceci pourrait peiner le petit vieux. Parfois, quand on vit un grand bonheur, savoir que la personne qui nous est la plus proche ne sera pas en mesure de vivre ou de comprendre ce bonheur peut être blessant. Alors, on garde ce bonheur pour nous, pour ne pas être confronté à la blessure de l'absence de compréhension. Pour ne pas voir que cette personne qui nous est si proche ne nous comprend pas toujours. Et la petite vieille nous fait sa crise de jalousie. J'avoue que ça, En lisant le conte pour la première fois, je ne l'avais pas vu venir. Et encore une fois, la jalousie est punie, puisqu'en pensant décrire sa rivale, la petite vieille dresse en réalité un portrait peu flatteur d'elle-même. Si l'homme voit dans le miroir une source de bonheur, que celui-ci fait surgir les traces du passé, de la continuité, de l'hérédité, la femme, elle, y voit ses craintes. Car, comme elle le dit, « je savais bien qu'il me trompait !» Et le miroir fait jaillir d'elle une colère sans doute due à un égo blessé. Et quant au garde champêtre, il passe un peu pour un simple d'esprit, car dans le miroir, il ne voit que lui. C'est un personnage complètement dénué de psychologie. Le petit vieux pleure, la vieille est en colère, et lui, je cite le texte, « regardant le miroir dans lequel se reflétait son image, il ne put constater qu'il ne comprenait rien, lui non plus, car ce qu'il voyait, lui, c'était un garde champêtre. » Si le miroir reflète aussi notre intérieur, on peut penser qu'il ne se passe pas grand-chose dans la tête du garde champêtre. Mais sa neutralité permet de révéler que les petits vieux voyaient dans le miroir ce qu'ils projetaient et non pas ce qu'il y avait vraiment. Et leur absence de communication sur ce fameux miroir et ce qu'il leur montre, leur mutisme laisse de la place pour faire pousser les racines de la discorde. Le miroir est un objet fourbe que l'on rencontre de temps à autre dans les contes. Il n'est pas souvent déclencheur de bonnes nouvelles, mais il a le mérite de refléter une partie cachée de notre intériorité. C'était l'émission Conte-Goutte. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.